affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour notre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'écrivain Philippe Bossan. Philippe Bossan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois romancier, musicologue et historien d'art. Et en amoureux de tous les arts, vous avez consacré vos ouvrages aussi bien à la littérature qu'à la musique ou la peinture, mais encore la danse et l'architecture, sans oublier l'art culinaire. Vous êtes aussi une figure phare en France de la redécouverte de la musique ancienne et avez fondé en 1988 le Centre de musique baroque de Versailles. Le 15 novembre 2007, vous avez été élu à l'Académie française que vous représentiez en octobre dernier lors de la séance solennelle de rentrée des 5 académies. Et à cette occasion, Philippe Bossan, vous avez prononcé un discours intitulé « Le passé est-il présent ?» qui portait à la fois sur le temps et sur l'émotion esthétique et à travers lequel vous nous avez rappelé que la déesse grecque de la mémoire s'appelait Mnémosyne, qu'elle avait eu avec Jupiter 9 filles qui n'étaient autres que les 9 muses, inspiratrice de tous les arts, et que par conséquent, je vous cite, « pas de musique sans la mémoire, pas de poésie sans le souvenir ». À la lumière de cette constatation, j'aimerais remonter avec vous le fil du temps, Philippe Bossan, et revenir loin en arrière pour évoquer un aspect moins connu de votre personnalité, celui de l'écrivain voyageur, et particulièrement l'écrivain marcheur, qui pendant des années est parti sur les chemins de France et d'ailleurs. Alors, aussi loin que remonte votre mémoire, Philippe Bossan, à partir de quand vous souvenez-vous avoir associé la marche à la littérature ?
Alors, j'ai découvert la marche toute seule d'abord. La littérature est venue après. Et en fait, c'est amusant, mais c'est mon père qui, un jour, je me rappelle très bien, je devais avoir 15 ans. Il m'a dit, mais Philippe, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ton vélo ? Et pourquoi est-ce que tu ne vas pas te promener ? Tu as des cousins qui habitent en Bourgogne, etc. Alors, j'ai obéi à mon papa, j'ai pris mon vélo, je suis parti. Nous habitions Lyon à ce moment-là. Je suis monté, en effet, vers la Bourgogne et j'ai découvert Cluny. Et donc, c'est une découverte simultanée, si vous voulez, du plaisir de la marche. Parce que j'ai laissé mon vélo chez les cousins assez vite pour me balader à pied, et puis la découverte de la roman en même temps.
Et vous étiez seul déjà à ce moment-là ?
Ah oui, j'étais seul. J'ai toujours voyagé seul.
Et alors, dans un de vos ouvrages, le roman Stradella, qui est paru en 1999 chez Gallimard, vous évoquez aussi un autre souvenir d'enfance, lorsque, avec vos frères et sœurs, vous partiez sur les chemins de l'école et que vous leur racontiez des histoires. Alors, est-ce aussi sur ces chemins-là qu'est née votre vocation de conteur ?
Oui, en effet, vous me le rappelez, j'allais l'oublier, en effet. Alors, à ce moment-là, j'avais 11 ans, et j'avais une petite sœur qui devait avoir 8 ans, et un petit frère qui en avait 5. Et nous faisions, parce que c'était au début de la guerre, il n'y avait plus d'autobus, il n'y avait plus de... etc., nous faisions... je dirais 3/4 d'heure de marche à pied tous les matins pour aller à l'école. Et je racontais des histoires. Et je me souviens en particulier, je venais de lire, ou j'étais en train de lire, 2 ans de vacances, et je leur racontais tout ce que j'avais lu la veille.
Et sur les chemins de l'école, 2 ans de vacances, ça fait forcément rêver, oui. Donc, d'une certaine manière, c'est sur la route qu'est née à la fois votre vocation de conteur, votre goût de l'aventure, votre passion pour l'art roman. Dans votre roman Stradella, vous passez sans cesse du temps de l'histoire à celui de la narration. Et vous rappelez l'un des privilèges du romancier qui consiste à pouvoir, je vous cite, « jouer avec le temps sans règles ni lois ». Et vous ajoutez « Tout est permis à son caprice, il l'allonge ou le resserre et le contracte, il brûle les étapes et 2 pages plus loin se remet à flâner ». Alors à l'image ou à la manière du romancier, je vous propose d'abord de flâner un petit peu, Philippe Bossan, et de rester au temps de votre enfance. Est-ce que vous pourriez nous évoquer vos premières impressions musicales ?
Les premières impressions musicales, c'est merveilleux. celle qui m'a marqué pour toujours, je la vois encore, je me vois encore, c'est mon grand-père. J'avais un grand-père extraordinaire et il m'a fait entendre Le Petit Poucé de Maurice Ravel. Voilà, et je me vois, j'étais allongé sur un canapé et il avait mis le disque, c'était des gros vieux disques comme on avait dans les années 30, et j'entends ça et cette œuvre est restée au fond de moi et elle y est toujours. Alors ça, c'est ma première, c'est mon premier grand souvenir, mais un autre souvenir très très important, mais c'est un peu plus tard que je le remémore, c'est ma mère au piano. J'avais une mère qui était un pianiste amateur. Elle en a fait quand même dans sa jeunesse 6 heures par jour, mais elle n'a jamais fait de carrière. Et elle adorait Jean-Sébastien Bach. Et donc j'ai démarré avec Bach et avec César Franck, dont elle me racontait que c'était l'arrière-grand-oncle de... Enfin, je sais pas, je me flattais d'être un petit peu le descendant de César Franck.
Donc Philippe Bossan, vous avez choisi pour nous un morceau de César Franck, précisément, que nous allons écouter maintenant, et qui est...
Prélude, chorale et fugue, que j'ai entendu indéfiniment. Alors, ce que j'admirais, c'est, je ne sais pas si vous voyez l'art du pianiste dans le début du prélude, il faut passer de la main gauche à droite, de la main droite à gauche. Et alors, j'admirais ma mère qui jouait comme ça. C'était extraordinaire.
Philippe Bossan, nous avons flâné un petit peu, nous nous sommes arrêtés au moment de votre enfance, justement, quand votre mère était au piano, qu'elle jouait du César Franck et que vous l'admiriez. Alors maintenant, je vous propose de brûler les étapes, comme vous l'indiquez dans Stradella, hein, c'est le privilège du romancier, on va faire un petit peu comme le romancier, nous allons brûler les étapes et passer du temps de votre enfance directement à celui de votre jeunesse. Lorsqu'à l'âge de 17 ou 18 ans, vous avez pris l'habitude chaque été de partir tout seul, sac à dos et godillot au pied, je vous cite à nouveau. Alors, quelle était votre motivation? Était-ce la beauté du monde, le goût de la solitude?
Alors, tout ça, ça vient de ce que mon père m'a demandé la première fois, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui m'a envoyé sur la route une fois. Alors, j'ai continué tous les étés à faire des petits voyages. Et puis, petit à petit, c'est devenu plus important. Et comme... Dans ce premier voyage où j'ai été allé en Bourgogne et où j'avais vu et rencontré Cluny, en même temps, c'est lié à l'art roman. Donc, mes premiers voyages sont pour voir l'art roman, et en particulier, très vite, Vézelay, qui est quand même l'un des lieux majeurs de l'art roman.
Alors, cette passion pour l'art roman vous incite à vous présenter au concours des bourses de voyage Zelidja, et vous permettra d'ailleurs de l'emporter à deux reprises. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consistait ce concours?
Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Jean Walter, qui était un homme très, très riche, qui, ayant fait fortune grâce à des mines de plomb, qui lui rapportait beaucoup d'argent.
Et qui se trouvait...
Ça se trouvait au Maroc, à la limite du Maroc et de l'Algérie. Et alors il a décidé, il a dit, c'est extraordinaire, je l'ai entendu dire ça, hein. J'ai découvert ces mines parce que on m'avait permis de faire un petit voyage solitaire au Maroc. Et ça m'a tellement, c'était tellement important dans ma vie que j'ai décidé que j'allais donner à des jeunes gens la possibilité d'en faire autant. Voilà. Alors il a créé les bourses Zelidja. Zelidja, c'est le nom de sa mine. Et ont donné une somme relativement, pas énorme, mais suffisante pour aller faire un mois ou un mois et demi de voyage, comme ça, sac au dos. Alors, je l'ai fait assez vite, avec passion, et je suis très étonné encore, parce que ça passait par les profs de français, hein, dans les lycées. Mon prof de français nous a proposé ça, et je suis le seul à avoir dit, mais je pars quand vous voulez. Aucun de mes camarades n'a bougé.
Parce bon. Que vous aviez déjà le goût de l'aventure, ça c'est...
Évidemment, évidemment, et le goût déjà des voyages. Alors, c'était mon premier voyage. J'ai décidé d'aller étudier l'art roman en Provence. Et j'ai étudié en particulier les trois grandes abbayes provençales que j'aimais beaucoup. Et j'ai des souvenirs encore merveilleux. Je suis arrivé à l'abbaye de Sénanc, si je ne me trompe. Il n'y avait personne. J'y ai passé la journée. J'y ai passé une nuit tout seul dans le cloître. Et le lendemain, il y a un gardien qui est arrivé. On lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, ben, je suis entré, il n'y avait personne, la porte était ouverte. Ah bon? J'avais passé un moment inoubliable. Voilà, alors j'ai donc étudié, c'est mon premier voyage, les églises romanes et en particulier les trois grandes abbayes provençales.
Alors vous avez donc découvert Sénanc, mais aussi le Touronnais et Sylvacane.
Et Sylvacane, oui.
Qui vous a particulièrement marqué,
oui,
je crois.
Absolument. Oui. Et puis, apparemment, mon rapport, comme on appelait ça, le texte que j'ai écrit, que j'ai revu d'ailleurs il y a quelque temps à une exposition Zelidja, ça m'a bien amusé. Apparemment, il avait bien plu. Et donc, on m'a donné un deuxième prix pour l'année suivante. Et alors, à ce moment-là, j'ai vu grand et je me suis dit, eh bien, je vais faire le pèlerinage de Compostelle. Alors, je suis parti de Vézelay avec l'intention d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je n'y suis jamais allé parce que c'était trop loin. Mais j'ai marché pendant, je ne sais pas, un mois et demi. Et en particulier, je suis monté à Roncevaux en pensant à Roland, bien entendu. Mais vous savez, les voyages à ce moment-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'étais donc sac à dos sur les routes dans les années 50. Les gens s'arrêtaient pour me dire alors, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, je leur racontais et tout. Et je me rappelle, ça m'a frappé particulièrement. J'ai passé cinq jours, où je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit, même pas à une voiture de s'arrêter. Les gens s'arrêtaient, une voiture à cheval ou voiture automobile, et pendant ces 5 jours, je n'ai ni demandé à manger à midi, ni demandé à manger le soir. J'ai été nourri, les gens m'invitaient, tout simplement, et j'ai couché dans les granges, sur le foin. On me donnait le petit déjeuner le lendemain matin et je repartais. C'était extraordinaire. Et je me rappelle même une fois, c'était en Auvergne, il y a des gens qui étaient dans une petite bagnole, qui s'arrêtent, qui me prennent et me disent ouais, et qui me demandent de raconter tout ce, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Et ils me font faire, je sais pas, 20-25 kilomètres. Et puis au bout de quelques temps, ils me disent, ben, nous sommes obligés de tourner à droite, on vous laisse là. Mais il y avait une petite auberge juste au coin. On va prendre un verre, me disent-ils. Alors on prend un verre. Et à la fin, ils me disent, bon, ben, au revoir, bon voyage, marchez bien, etc. Et ils s'en vont. À ce moment-là, je vais chercher mon sac, je le mets sur mon dos. Et à ce moment-là, l'aubergiste me dit « Mais monsieur, pourquoi vous partez? Ils ont payé un dîner pour vous. » C'était comme ça. C'était comme ça. Ce sont des souvenirs extraordinaires.
Alors, le pèlerinage vers Compostelle est aujourd'hui très à la mode. Et il y a foule de marcheurs l'été sur les routes. Mais bien sûr, j'imagine que ce n'était pas du tout le cas à l'époque.
Non, non.
Ces rencontres extraordinaires et parfois insolites, vous les faisiez plutôt dans le monde rural, le monde paysan. Et ce monde paysan semblait encore parfois, dans les années 50, renvoyé à la nuit des temps. Et dans un de vos ouvrages, Nouveau Stradella, vous avez évoqué une nuit extraordinaire que vous avez passée, que vous avez qualifiée de la nuit la plus archaïque. Oui. N'y est jamais passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette nuit ?
Eh bien, c'était précisément en montant vers Roncevaux. J'avais du Roland en plein la tête, comme ça. Et puis, il y a un vieux bonhomme qui passe avec sa voiture à chevaux. Et il s'arrête, comme toujours. Et il me dit alors, avec son accent, où allez-vous, qu'est-ce que vous faites, etc. On marche, moi je monte dans la voiture, dans la carriole, on fait quelques kilomètres, et puis au bout d'un certain temps, on arrive à sa maison, qui était en bordure de la route, par un petit chemin qui descend. Et qu'est-ce que je vois à la porte de la maison ? Madame, avec je ne sais pas combien, 8 ou 10 enfants, quelque chose comme ça, des garçons, des filles, toute la famille. Alors, il m'a invité à dîner, et puis on a dormi ensuite. Et alors, comment est-ce que vous croyez qu'on dormait dans ces fermes de montagne là-bas ? Eh bien, madame allait dans une pièce avec toutes les filles, monsieur allait dans une autre avec tous les garçons, et tout le monde couchait dans le même lit. Une espèce de grand matelas par terre, il y avait le père avec ses 3 ou 4 garçons, ou 5 garçons, et puis moi, puisque j'étais invité ce soir-là. C'est une soirée absolument inoubliable, parce que tout tombait comme ça, je m'attendais à rien bon, et je pensais naturellement à Roland, puisqu'on était tout près de Roncevaux.
Alors, comme vous l'avez écrit vous-même, vous donniez alors des allures de Lévi-Strauss en herbe. Mais toutes ces pérégrinations vous ont surtout inspiré votre premier livre, Le jeu de la pierre et de la foi, paru chez Gallimard en 1962. Et dans ce livre, vous parlez notamment beaucoup de Vézelay, qui était la première étape de votre second voyage, des Bourses Elidja. Est-ce que vous pouvez nous parler de Vézelay ?
Oui, mais alors attendez, je vais vous parler de la manière dont ce livre a été fait, finalement. En fait, j'avais écrit une quinzaine de pages ou 20 pages. C'était un article dans ma tête. Et je suis allé le porter chez Gallimard, mais pour la revue, pas pour... J'avais pas l'idée de faire un livre. Et Marcel Arlan l'a pris... Il était passionné d'art roman, lui aussi. C'était le directeur d'art vue à ce moment-là. Et il m'a dit, mais continuez. Et c'est lui qui m'a fait écrire la suite du livre.
Et qu'il a préfacé d'ailleurs votre
ouvrage.
Et puis
ensuite, il a fait la préface, oui.
Et alors, vous êtes resté combien de temps à Vézelay au moment de...
J'y suis allé très souvent. Parce que c'était pas très très loin de Paris. J'y suis allé je ne sais combien de fois. Je ne saurais pas vous dire.
Alors, Vézelay résonne en vous d'une manière particulière, mais pour d'autres raisons encore. Vous avez été en effet le secrétaire particulier de Madame Romain Roland, qui passa les derniers jours de sa vie à Vézelay et qui avait aussi la particularité d'être très lié à Paul Claudel, que vous avez toujours admiré.
Bien sûr.
Et pouvez-vous nous parler de l'étrange rencontre que vous avez faite un jour sans le savoir dans la basilique de Vézelay, précisément ?
Oui, alors c'est très amusant parce que j'ai donc été le secrétaire de Madame Romain Roland dans ses dernières années. Et une fois donc, nous sommes allés d'ailleurs en Vézelay ensemble. Je ne me rappelais même pas qu'ils avaient une maison là-bas. Enfin, bon. Et c'est récemment... qu'en lisant un livre, j'ai découvert quelque chose qui me stupéfie. C'est que, en effet, Claudel venait souvent chez les Romain Roland. Ils étaient très amis. Et puis, Rosalie Sibor-Iskla a été l'amie de Madame Romain Roland pendant des années et des années.
Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs, en fait, qui était oui. Rosalie Sibor-Iskla ?
Eh bien, elle a été le modèle d'Isée dans la tête de Paul Claudel. Et alors, c'est peut-être 40 ans après, quelque chose comme ça, qu'en lisant un livre sur Claudel et sur elle, je me suis tout d'un coup rappelé, j'ai fait le rapprochement du calendrier, le jour où on a fait les obsèques de Rosalie. J'étais à Vézelay, j'en suis sûr. Et je crois que c'est ce jour-là que l'un des moines de l'abbaye m'a dit « Philippe, est-ce que vous voudriez bien tenir l'orgue parce que nous avons des obsèques ce matin ?» Et c'est 40 ans après que je me dis « Mais sapristi, est-ce que c'est moi qui tenais l'orgue pour les obsèques de Rosalie ?» qui m'a toujours ému, parce que le soulier de satin, c'est une de mes œuvres préférées. Claudel, j'ai fait ma maîtrise et ma thèse là-dessus, sur lui, sur les cinq grandes odes. Et alors, penser que c'est peut-être moi, et probablement moi, qui tenais l'orgue le jour de ses obsèques, et le découvrir 50 ans après, c'est stupéfiant.
Alors, depuis Vézelay, en quelle direction êtes-vous parti? Vous vous souvenez un petit peu du chemin que vous avez emprunté? Est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'à Compostelle, mais vous avez quand même pris la route de Compostelle? Où vous êtes-vous arrêté? Quelles nouvelles découvertes avez pu...
Oui, bien alors j'ai suivi les itinéraires que l'on connaît d'ailleurs, que suivaient les pèlerins. Ça m'a conduit à travers l'Auvergne. L'Auvergne, c'est l'Auvergne qui m'a le plus frappé d'ailleurs. Et puis le sud-ouest, puis on arrive jusqu'à Roncevaux. Puis alors là, j'avais mis trop longtemps. Et j'ai trouvé une lettre de mon père qui me disait « Allez, il faut que tu rentres parce que tu as des examens à passer. » Alors je suis remonté. et voilà.
Alors, dans votre livre, Le jeu de la pierre et de la foi, dans une langue magnifique, vous dégagez dans cet ouvrage certaines des spécificités de l'art roman. Et vous évoquez notamment sa diversité intrinsèque liée, je vous cite, à la diversité de sa technique, et que c'est chaque technique qui invente à la suite son style. Pouvez-vous nous donner des exemples, peut-être parmi ceux que vous avez le plus aimés, de cette diversité, de cette singularité propre à chaque église romane? Pouvez-vous nous expliquer finalement pourquoi aucune ne ressemble vraiment à une autre?
Alors, c'est une particularité de cet art-là. Si vous comparez avec l'art gothique, par exemple, l'art gothique, il a trouvé une structure architecturale très précise, avec sa voûte, et qui fait que toutes les églises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, que ce soit des cathédrales ou des petites églises de village, elles ont la même technique qui les fait se ressembler, dans leur diversité naturellement. Tandis que l'art roman, qui le précède depuis le 10e, 11e siècle, ce sont des tâtonnements. Ils cherchent une technique, ils ne l'ont pas encore trouvée. Ils ont quand même découvert la voûte, évidemment, mais ils tâtonnent. Et ça donne une grande diversité à l'art roman, avec tout de même des particularités de chaque province. On reconnaît quand même l'art roman bourguignon, l'art roman du Périgord qui est complètement différent, etc. Mais c'est une improvisation... dans l'art à cause de la technique, si vous voulez.
Alors, douceur, humilité, fermeture semblent d'après vous les maîtres mots de l'esthétique romane, qui obtient, je vous cite, quelque chose de plus beau encore que la lumière, qui est le dialogue de la lumière et de l'ombre. De fait, chaque église n'a-t-elle pas là encore non seulement sa technique, mais aussi sa lumière propre, singulière?
Oui, mais bien sûr. Justement parce que je compare de nouveau avec l'art gothique. L'art gothique a réussi à trouver une technique de la voûte qui lui permet d'ouvrir quantité de vitraux, autant qu'il en veut. Et les cathédrales gothiques sont belles, en particulier à cause de leurs vitraux. Tandis que l'art roman, suivant la technique utilisée, suivant les découvertes de l'architecte, il peut ouvrir beaucoup de fenêtres, ou bien il ne peut pas parce que c'est trop lourd, parce que les murs sont trop lourds, et donc la lumière est très diversifiée selon les régions et selon les bâtiments.
Alors dans votre livre « Le jeu de la pierre et de la foi », paru chez Gallimard, je le rappelle, en 1962, vous nous parlez aussi beaucoup de sculptures, notamment de l'Ève d'Autun, et vous écrivez « Cette Ève est géniale en ce que son asservissement au cadre ne nuit pas à sa valeur plastique ou expressive, elle l'engendre ».
Ah oui, la découverte de la sculpture romane, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que je l'ignorais, je n'y pensais pas. Et en particulier, à Autun, puis à Vézelay. À Vézelay où tous les chaque petite colonne porte son chapiteau avec qui raconte toutes sortes d'histoires. Et c'est passionnant, je l'ai fait par la suite, j'ai emmené mes petits-enfants visiter Vézelay, et on regardait chaque histoire, et ça les passionnait.
Est-ce que vous vous souvenez aussi de votre découverte de Sainte-Foy de Conques ?
Alors, Sainte-Foy de Conques, oui, c'est autre chose, c'était une surprise, parce que j'étais très habitué à l'art roman bourguignon, justement, Vézelay, Autun, etc. Et je connaissais beaucoup moins l'art roman du Sud-Ouest. Et donc, ça m'a un petit peu surpris, c'est vrai.
Alors, dans votre roman L'archéologue, paru en 1979 chez Gallimard, et pour lequel vous avez reçu le prix de l'Académie française, vous évoquez, après avoir emmené le lecteur au bout du monde, à Bali, au Cambodge ou encore en Égypte, vous évoquez une petite chapelle romane adossée à une ferme et qui demeure dans votre imaginaire comme le fondement de vous-même, de votre identité propre, en tout cas de celle du narrateur. Et je ne peux m'empêcher de vous citer. Mais quand on entrait dans ma chapelle, que la pénombre refermait doucement l'espace derrière vous, qu'elle vous laissait en tête à tête avec ce seul rayon de lumière qui descendait de la petite fenêtre sans vitrail, il se produisait dans ces trous d'ombre qui se creusaient autour de vous, quelque chose comme une dilatation. Cette masse d'air enclose entre les murs se mettait à respirer à l'image de votre propre poitrine. À l'image du narrateur Philippe Bossan, je suppose que vous avez éprouvé pareillement le sentiment de respirer à l'unisson avec ces nefs romanes qui vous enveloppaient et se refermaient sur vous lors de vos voyages.
Bien sûr, je crois que c'est une des choses les plus essentielles de l'art roman, c'est justement la manière dont on se trouve au milieu d'un bâtiment. Tout d'un coup, on le découvre, on ne le connaissait pas, et chaque fois, il nous surprend, et on est obligé de communier avec lui. Et cette petite chapelle, qui est en Provence, je me souviens très bien, elle était très émouvante. Et bon, c'est un des fondements de l'art roman. Et alors, entre-temps, c'est vrai que j'avais beaucoup voyagé et que j'ai été professeur à l'université d'Adélaïde en Australie. Et je dois bien avouer que j'y suis resté 5 ans et je dois bien avouer que j'allais très très souvent à Bali. À Java.
Comme le personnage.
Oui, absolument. Mais toutes mes vacances, c'était pour partir là-bas, en particulier Bali, bien sûr, et le Cambodge. Alors j'ai eu une passion, une véritable passion pour le Cambodge. J'avais même demandé à être nommé à l'université de Phnom Penh. Et c'était 10 jours avant le début de la guerre. Donc je ne suis jamais allé, malheureusement, mais je suis allé très souvent au Cambodge et ça reste quelque chose qui me marque. J'ai même fait plus que ça. Parce que les voyages, vous savez, il y a des sacrées surprises de temps en temps. Imaginez que un soir, le dernier soir, j'ai été voir le coucher du soleil sur les temples d'Angkor. C'est la splendeur absolue. D'autant plus qu'à ce moment-là, c'est probablement parce que les gens savaient que la guerre arrivait. Moi, j'ignorais parce que je ne faisais pas attention. Mais il n'y avait personne. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, hein, ces temples. C'est immense. Et j'étais tout seul coucher du soleil à l'arrivée de la nuit. Le lendemain matin, je devais partir. J'avais demandé à un cyclopousse de venir à 5 heures du matin. Je suis reparti voir le lever du soleil sur le temple d'Angkor. Puis il m'a conduit à l'aéroport. Et puis, comme l'avion est parti, je suis parti dans l'avion. Et le soir, j'arrivais en Égypte. J'ai pris immédiatement un taxi. Je suis allé aux pyramides. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que le décalage horaire et la vitesse des avions peut faire. Vous sortez d'Angkor Wat et vous arrivez dans les pyramides. C'est deux civilisations qui se carambolent dans la même journée. Ça, c'est inoubliable.
Alors vous ressemblez donc beaucoup au personnage de l'archéologue, hein, Philippe Bossan, et ce personnage qui voyage partout dans le monde et qui ne peut s'empêcher d'évoquer quand même cette petite chapelle romane. Alors pour en revenir à l'art roman, à plusieurs reprises, vous avez comparé l'architecture romane à la musique. La nef romane permettant à qui la pénètre de retrouver sa propre architecture, son propre volume, de la même manière que la musique permet à qui l'écoute et se laisse habiter par elle de retrouver sa propre pulsation. Vous dites même de Jean-Sébastien Bach qu'il est un musicien anachronique le plus proche de la spiritualité romane. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment cette comparaison est possible ?
Bien, parce que quand vous entrez dans un édifice roman, dans une basilique, que ce soit Vézelay, Autun ou une petite église, tout de suite, vous êtes pris par l'interrogation de la structure. Dans une église romane, la structure est fondamentale. Et c'est la première chose qui vous interloque quand vous entrez. C'est comme une fugue de Bach. Dans une fugue de Bach, c'est aussi la structure qui est fondamentale. Bon, je crois que la comparaison ne va pas plus loin, sauf que Jean-Sébastien, finalement, il a très bien sa place dans une église romane.
Philippe Bossan, vous avez choisi pour nous un passage de Bach. Pouvez-vous nous indiquer lequel avant que nous l'écoutions ?
L'Agnus Dei de la Messe en Si, par exemple. C'est un des moments très, très émouvants de cette œuvre qui est une véritable cathédrale à elle toute seule. Je renverse un petit peu la comparaison, mais c'est l'un des moments très, très émouvants de cette œuvre incroyable.
Alors, en suivant vos pas, Philippe Bossan, on voit donc partout ressurgir votre amour de la musique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez créé la Chapelle Royale ?
Ah, ça, c'est une expérience tout à fait extraordinaire. Alors, je vais vous raconter tous les détails. La première chose, c'est que j'avais entendu parler de Philippe Hervaigue, mais je ne le connaissais pas et je ne l'avais jamais entendu. Et c'était au mois de juin, et mon fils passait son bachot le lendemain. Et j'avais promis, juré, que je l'emmènerais au concert pour le distraire un petit peu la veille de son épreuve du bachot, mais qu'il serait couché à 9h30 pour être bien reposé. Alors, nous sommes allés, lui et moi, nous sommes allés au concert, dans l'église. Nous avons entendu un tout petit bout d'une cantate dirigée par Philippe Hervaigue, et mon fils peut en témoigner. Quand nous sommes ressortis à 9h15, quelque chose comme ça, de l'église, je lui ai dit, c'est lui que je veux, je vais créer la Chapelle Royale à Paris et c'est lui que je veux comme chef. Quelques mois après, je lui ai téléphoné. Je l'avais vu qu'au fond de l'église, hein, je ne savais même pas qui c'était, je croyais même que c'était un monsieur très respectable alors qu'il était tout jeune encore. Et je lui ai téléphoné, j'ai dit, et puis quelques semaines après, on a fait des auditions et il a créé la Chapelle Royale. Alors, là-dessus, deux ou trois ans se sont passés, et nous avons eu un concert extraordinaire. Mais alors, attendez, j'étais naïf comme tout. À ce moment-là, je faisais très souvent le matin des musiciens sur Radio France. Je sais pas, non, ça s'appelait France Musique à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le temps, au temps d'Alain Durel et d'Inge Thaïs. Et quand on avait un matin des musiciens, on avait la charge de faire une semaine d'émission, 3 heures par jour. C'est-à-dire qu'on faisait 15 heures d'émission, seul, derrière le micro, pendant une semaine. Je vous dis que le vendredi, on s'écroulait. Bon, alors, il se trouve que Philippe Hervaig allait donner la messe en scie un samedi soir dans une église de Paris, c'était Saint-Germain-l'Auxerrois, si je ne me trompe. Et pendant toute la semaine, j'ai fait des émissions sur la messe en scie. Et non seulement ça, mais chaque matin, je faisais venir pendant 5 minutes l'un des chanteurs de la Chapelle Royale que j'interrogeais sur ce qu'il faisait, etc. Et je ne me doutais absolument pas, j'avais absolument pas le sens du commerce et de la publicité. Il y avait de quoi remplir 3 fois l'église le samedi soir, évidemment, puisque j'avais parlé que de ça toute la semaine sur France Musique. C'était un temps, une période extraordinaire, cette période où Alain Durel et Inge Thaïs dirigeaient France Musique. Je vous assure que je faisais ça à peu près tous les 3 mois, hein, 15 heures d'émission. Le vendredi à midi, c'était l'écroulement absolu, mais c'était véritablement passionnant parce qu'on était très proche du public et le public vous téléphonait pendant les émissions, etc. C'était merveilleux. C'est une époque dont je garde un grand souvenir.
Alors sur les routes de France et de Navarre, justement, vous n'êtes pas seulement allé à la rencontre de l'art roman. Vous avez fait aussi, là encore sac au dos, une autre découverte déterminante, une découverte musicale, c'est Monteverdi. Alors, pouvez-vous nous raconter ce coup de foudre que vous évoquez d'ailleurs dans un de vos livres de recettes baroqueuses, Préludes, Fougasses et Variations, paru chez Actes Sud?
Tout est lié, vous savez, puisque ça se passe exactement pendant que j'étais en train de me promener en Provence pour voir l'art roman provençal et les trois abbayes dont nous parlions tout à l'heure. C'était au mois de juillet, et il se trouve que j'étais à Aix-en-Provence pendant le festival, à ce moment-là. Je n'étais jamais allé à l'opéra de ma vie. D'ailleurs, mes parents se moquaient de l'opéra, je ne sais pas pourquoi. Ma mère, qui était si bonne musicienne, me disait « Mais l'opéra, c'est ridicule, ces gens qui chantent sur la scène en jouant la comédie, ça, c'est pas sérieux du tout. » Et donc, je n'étais jamais allé à l'opéra, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, je vois sur les affiches à Aix-en-Provence, le soir, Monteverdi, Orfeo. Monteverdi ? Un opéra de Monteverdi ? Ah, j'y vais quand même. Tant pis pour ce que diront mes parents. J'y suis allé et je suis resté les bras ballants, disant « Mais c'est ça l'opéra ? Mais c'est merveilleux !» J'y suis retourné le lendemain, à une petite place très loin, parce que je n'avais pas 3 sous, mais c'est la découverte de l'opéra. Voilà.
Alors, comme vous, ce soir de juillet, nous allons maintenant écouter un passage de l'Orfeo de Monteverdi, un passage que vous avez choisi pour nous, Philippe Aussan.
Circondi e il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedestu mai di me più lieto e fortunato amante?
Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus touchant, de plus émouvant que ce dialogue d'Orphée et d'Eurydice ? C'est bouleversant. Alors, je l'aime toujours plus. Et chaque fois, je peux dire que je me souviens de ma stupeur en écoutant ça pour la première fois à Aix-en-Provence dans les années 50.
Alors, beaucoup plus tard, Philippe Bossan, dans votre livre « Le chant d'Orphée », justement, sur le Monteverdi, vous écrivez « Dans l'Orfeo, Monteverdi fait accoucher la Renaissance et c'est le baroque qui va en naître ». Alors, pouvez-vous nous dire, justement, comment êtes-vous passé de l'art roman, du monde médiéval, à la peinture italienne de la Renaissance et surtout à cette esthétique baroque à laquelle vos lecteurs, finalement, vous associent immédiatement, vous qui avez consacré tant d'ouvrages à cette esthétique baroque ?
Eh bien, écoutez, la vie fait comme elle veut. Hein. J'ai commencé par aimer l'art roman et puis j'ai aimé la Renaissance parce que j'aimais la poésie et je découvrais la musique baroque petit à petit, comme ça, avec surprise, comme je viens de le dire. Et puis petit à petit, je suis entré et comme il me semble que les arts se complètent nécessairement les uns les autres. Quand vous aimez la musique baroque, vous ne pouvez pas ne pas faire des recherches pour essayer de comprendre son architecture, sa peinture, etc. Pour moi, il est fondamental que les arts se tiennent. Je ne conçois pas une cathédrale gothique sans la musique du XIIIe siècle qui commence à imaginer ce que c'est qu'une polyphonie. Mais quand vous regardez les voûtes d'une cathédrale gothique, c'est bien ce que vous voyez, hein, exactement. Et puis quand vous voyez, quand vous écoutez la musique émotionnelle de l'époque baroque, vous voyez bien qu'on est obligé d'avoir une autre architecture, une autre pensée. Tout se tient. Je suis convaincu que la poésie, la musique et les arts plastiques se tiennent et se complètent les uns les autres. J'avoue que quand je vois des historiens d'art qui font presque un sourire quand je leur dis « Mais alors, Monteverdi, qu'est-ce que c'est ?»« Oh bah oui, mais ça c'est autre chose, ça les intéresse pas. » Eh bien, pour moi, c'est fondamental.
À vos yeux, ne doit pas être spécialiste.
Ben, on doit l'être, bien sûr, mais il faut aussi voir large.
Alors nous avons évoqué à plusieurs reprises dans l'émission votre roman Stradella, où en jouant avec le temps de la narration et avec celui de l'histoire, vous revenez sur votre propre passé et nous livrez des souvenirs de marche de voyage. Aujourd'hui, vous travaillez à un ouvrage à paraître bientôt chez Fayard et qui porte sur Christine de Suède et la musique. Or, Stradella fut aussi un des musiciens attitrés de Christine à Rome. Ne peut-on pas dire d'une certaine façon que Stradella est pour vous un éternel compagnon de route, un lien toujours renouvelé entre le passé et le présent ?
Alors, c'est un compagnon de route, vous avez tout à fait raison, mais il est bien encombrant. Parce que quand j'ai écrit un roman sur Stradella, je ne connaissais pas énormément de choses sur sa vraie vie et sur sa vraie carrière. Et j'ai simplement rêvassé sur ses aventures galantes et sur son amour pour Hortensia, etc. Mais c'est un roman. Et alors maintenant, je suis bien embêté parce que je suis obligé d'écrire un livre historique sur Christine de Suède avec son musicien Stradella. Mais ce n'est pas le même. C'est très, très difficile. Et c'est quand même extrêmement passionnant parce que figurez-vous que Stradella était donc l'un de ses musiciens favoris. Et dans ses dernières années, vieillissante, elle s'est mise dans la tête de composer un livret. Et alors, elle a écrit, réécrit indéfiniment des livrets pour des cantates. Et que Stradella a mis en musique. Mais alors, c'est absolument extraordinaire, parce que pour la première de ces cantates, il y a 13 brouillons de l'écriture illisible de Christine de Suède, qu'elle transmet à son secrétaire pour qu'il recopie, etc. Et puis Stradella fait 2 versions en musique. C'est passionnant.
Philippe Bossan, merci de nous avoir fait voyager dans vos pas tout au long de cette émission à la rencontre de l'art roman, mais aussi de la littérature et de la musique, vous qui êtes un amoureux de tous les arts. Merci de nous avoir montré comment le voyage et la vocation d'écrivain peuvent être si intimement mêlés. Merci à tous, enfin, de votre attention fidèle et à très bientôt sur Canal Académie.
Et merci à vous. Thank you.